Radio Okapi.
Le journal, Pascal Masirika.
Les titres de l'actualité, un conflit foncier a coûté hier la vie à un homme et fait plusieurs blessés dans la province de Maïndoumbé. Le différend oppose le peuple tendé du territoire de Yumbi à leurs voisins du territoire de Bolobo. Pour l'instant, la tension est montée d'un cran. Des hippopotames de la rivière Loufira inquiètent les pêcheurs de Malembankoulou dans la province du Olomami. Ces pachydermes ont même détruit leur pirogue. L'administrateur du territoire plaide pour leur refoulement par l'ICCN. Notre invité, c'est le directeur de la communication de la CENI, Jean-Baptiste Itipo, explique pourquoi le délai de dépôt des candidatures pour les députés nationaux a été repoussé. Madame, messieurs, bonsoir. Un conflit foncier a coûté la vie à un homme et fait plusieurs blessés graves dans la province de Maïndoumbé. Ce différend oppose les peuples tendé du territoire de Yumbi à celui du territoire de Bolobo. C'était hier jeudi au village de Ndoua dans le territoire de Bolobo. Le député national Willy Bolio, élu de Bolobo, annonce que la situation sécuritaire reste tendue dans la zone. C'est ce que nous explique Bandou Ville, Irène Mboma.
Selon le député national Willy Bolio, la situation sécuritaire est restée préoccupante depuis hier jeudi au territoire de Bolobo, précisément dans le village Ndoua situé à 24 km de la cité de Bolobo, chef-lieu du territoire. Il renseigne que les faits se sont déroulés en pleine forêt où la communauté Tende venant du village Bokalakala en territoire de Yumbi et celle du village Ndoua en territoire de Bolobo se sont affrontées avec des machettes. Le bilan de ces affrontements fait état d'un mort et plusieurs blessés graves, a rapporté cet élu du peuple qui attribue cette situation à un conflit foncier. Willy Bolio.
Ceux de Yumbi viennent prendre les forêts chez ceux de Bolobo. Donc c'est un problème de forêt. Ils se battent pour des espaces à faire les champs. Avant, c'était des remous qui n'étaient pas assez violents comme ça par rapport à la situation actuelle.
Je ne permets pas que dans mon territoire, que les gens posent des actes inciviques de vandalisme.
Cette information est confirmée par l'administrateur du territoire de Bolobo, Jonathan Ipoma Epele. Dans une correspondance adressée le même jeudi à l'autorité provinciale du Maïndoumbé, il sollicite une intervention musclée et rapide afin de rétablir l'ordre public. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Non loin de là, dans le Maïndoumbé, le trafic est interrompu sur l'axe routier reliant Kwamout Cité et le village de Massiambiou. La société civile locale affirme à Radio Okapi que c'est suite à la présence des coupeurs de route qui se sont installés depuis quelques jours dans le village d'Unselé. Conséquence, la pénurie de produits agricoles à Kwamout, selon le président de la société civile. Martin Souta met les autorités devant leurs responsabilités. Il a été joint par Irène Boma.
Il y a les coupeurs de route, c'est-à-dire les assaillants qui se sont avancés jusqu'au village Nselé qui s'approche directement de Kwamoutou. Ils se sont accaparés pour empêcher les passants de passer pour aller vers Machambio. Ils ont empêché même le véhicule de l'UNICEF qui était étranger. Ils voulaient rentrer pour qui? Ils ont vraiment craqué, pas de passage, c'est ce qui inquiète surtout vraiment et nous craignons cette situation car c'est cette route-là qui nourrit Kwamoutou et on se demande quelle est cette attitude qui continue à persister. Ils sont organisés, des quoi-là, ceux qui sont là commencent à couper la route qui reliait vraiment des fois les montants de nous ramener quand même le manioc pour les survies. Kwamoutou n'est pas alimenté, la route reliant Kwamoutou Machambio est coupée à partir d'un scellé. On ne sait pas à la longue que sera la vie de Kwamoutou. Il sera alimenté de quoi? Parce que la seule tronçon qui nous alimentait, c'était ça.
Économie à présent. En Ituri, les prix de produits agricoles ont augmenté ce jour-ci dans le centre commercial de Komanda au sud du territoire du Rumou. À la base, selon des sources locales, l'envahissement des champs des autochtones par des groupes armés locaux et étrangers, mais aussi l'impraticabilité des routes. La section locale de la Fédération des entreprises du Congo FEC demande par conséquent au FRDC de maintenir la pression sur les groupes armés qui terrorisent la population locale. Pour en parler, retrouvons à Bounia Ezekiel Mouzalia.
Plusieurs produits agricoles consommés en quantité suffisante ne sont presque plus visibles sur le marché à Komanda, à 75 km de la ville de Bounia. Selon des sources locales, cela est dû à l'occupation des trois groupements de la chefferie de Wales et Vonkutu à vocation agricole par des groupes armés. À cela s'ajoute également le problème des routes qui ne facilitent plus l'acheminement en quantité suffisante des produits des champs. Les agriculteurs de Komanda en particulier, qui ont leurs champs sur les tronçons Komanda-Luna, n'accèdent plus à leur zone de production. Conséquence, hausse des prix sur les marchés. Un régime de bananes plantées qui s'achetait facilement à 3 000 se procure aujourd'hui à 15 000 francs congolais. Même chose pour 1 kg de haricots qui coûtait 1 000 francs et qui, à ces jours, se négocie à 5 000 francs. D'autres produits tels que les cossettes de manioc et riz sont indisponibles dans différents centres. Cet habitant que nous avons joint au téléphone s'est dit inquiet.
Ceux qui exploitent leur champ au côté est des commandes ne vendent pas hors d'activité champêtre. C'est là qu'on trouve des régimes de bananes, c'est là qu'on trouve des haricots, c'est là qu'on trouve du riz.
La Fédération des entreprises du Congo FEC Komanda s'est dit préoccupée par cette situation qui perdure et qui impacte les quotidiens de plusieurs consommateurs, ce qui affecte également plusieurs habitants à Bounia qui se ravitaillent en produits agricoles à Komanda, considérés comme le carrefour des quatre grands centres commerciaux dont Ituri, Tchopo et Nord Kivu. Bounia, Ezekiel Muzalia, Radio Okapi.
Faisons un détour par le Nord Kivu où des miliciens en attente de démobilisation et d'autres cantonnés à Kalunguta, localité située à 40 km de Beni, se disent abandonnés depuis 2 mois. Ce qui les pousse à percevoir des taxes illégales ou à extorquer dans les marchés de Kalunguta et de Maboya. Contacté à ces sujets précisément, le responsable du programme de désarmement, démobilisation et réinsertion communautaire, PDDRCS, leur demande de se rendre au site de démobilisation de Maboya où une solution leur sera trouvée. Omar Kavota a été joint par Marc Marofimbo.
Le PDDRCS a déjà lancé un appel à tous ces combattants qui détiennent illégalement les armes à pouvoir venir adhérer au processus de désarmement et de démobilisation. Et le PDDRCS ne peut prendre à charge que les combattants qui ont répondu à son appel. Et si donc tous ceux qui sont à Kalunguta ou ceux qui sont ailleurs doivent s'attendre à adhérer au processus tel que lancé par le PDDRCS. Et le PDDRCS ne pourra prendre à charge que ceux qui viendront dans le cadre de rejoindre les sites de désarmement tels que validés et c'est à Mambango. On va vraiment s'y impliquer de manière à ce que tous ceux qui veulent rejoindre le processus le fassent. Mais ceux qui sont cantonnés à Kalunguta, ils ne l'ont pas été par le PDDRCS. Et comme le processus est basé sur le volontariat, nous voudrions que ceux qui saisissent le message viennent avec leurs armes et c'est à ce moment-là qu'ils pourront être pris à charge par le PDDRCS.
Dans l'actualité, il y a également le lancement à Kalemi des projets du Fonds pour la consolidation de la paix dans la province et du Tanganyika. Ces projets sont financés par les Nations Unies pour maintenir la paix dans les pays à risque ou en proie à un conflit violent. Les territoires de Nyunzu et de Kalemi sont concernés par ces projets. Des précisions avec la chargée de programme au bureau des coordinations résidents de l'ONU. Les propos de Mme Annie Bipendu ont été recueillis par Paul Emunanga.
Le premier projet sur la promotion de la gouvernance sécuritaire vise à contribuer à la restauration de l'autorité de l'État et à la stabilisation des zones de retour dans les territoires de Nyunzu, à travers notamment l'introduction de la police de proximité et la professionnalisation de la police pour construire une relation de confiance entre la police et les populations. Le second projet est une continuité logique des actions humanitaires et de développement en cours dans la province du Tanganyika et se concentre sur la prévention des conflits pour la consolidation de la paix en adressant les causes profondes de ces conflits avec un accent sur l'accès équitable des deux communautés, Twa et Bantu, aux ressources socio-économiques naturelles pour une cohabitation pacifique. Ces projets s'alignent sur les priorités provinciales qui sont identifiées dans le Plan National Stratégique de Développement, le PNCD, sur le Plan Provincial de Développement, sur lesquels s'aligne encore le plan de transition de la MONUSCO et les programmes du système des Nations Unies à travers les agences du système des Nations Unies qui œuvrent dans la province.
Pour la suite du journal sur Radio Capi, sachez que le Conseil de l'Union européenne a décidé de débloquer 20 millions d'euros pour appuyer la 31e brigade de réaction rapide et FARDC. La nouvelle est contenue dans un communiqué rendu public hier, jeudi. Objectif visé, renforcer les capacités des États tiers et d'organisations régionales et internationales dans le domaine militaire et de la défense. Ce soutien de l'Union européenne sera mis en œuvre par le ministère belge de la Défense. Rappelons que la Belgique forme déjà la brigade qui bénéficiera de ce soutien. Jacques-Yves Moulibin.
Par cette mesure d'assistance, l'Union européenne fournira des équipements individuels de base non létaux, tels que des kits de commando, des trousses de premiers secours et des vêtements, ainsi que des équipements collectifs tels que des kits anti-engins explosifs improvisés, des véhicules et des radios. Par ailleurs, comme pour tout soutien au titre de la Facilité européenne pour la paix, cette mesure d'assistance prévoit un ensemble de contrôles, de garanties et de mesures de suivi destinées notamment à garantir l'utilisation adéquate des équipements par la brigade et le respect des droits de l'homme et du droit humanitaire international. Enfin, la mesure d'assistance soutiendra également la réhabilitation du siège de la brigade. Comme vous le savez, la 31e brigade de réaction rapide est active dans l'est de la République démocratique du Congo et le soutien de l'UE renforcera les capacités et la résilience des FARDC dans une région marquée par la présence de plus d'une centaine de groupes armés. Notons que la Facilité européenne pour la paix a été créée en mars 2021 pour financer toutes les actions de la politique étrangère et de sécurité commune dans le domaine militaire et de la défense dans le but de prévenir les conflits, de préserver la paix et de renforcer la sécurité et la stabilité internationale.
Merci Jacques-Yves Moulima pour ces précisions. Autre nouvelle en plus bref, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC est arrivée à Uvira ce matin, d'où elle s'est envolée pour Mikenge dans les hauts plateaux du Tombwe, territoire de Mwenga au sud Kivu. Sur le chemin de retour, la délégation de Madame Bintou Keïta rencontrera le maire et l'administrateur du territoire d'Uvira, les organisations des jeunes, la société civile, les représentants des mutualités locales et les femmes candidates. Ce sera au quartier général de la MONUSCO à Rutemba. Son du voyage, Kassim Liagné, en charge des opérations, la directrice de l'information publique, Sakuya Oka, et la chef du bureau de la MONUSCO Sud Kivu, Cécilia Piazza. Autre nouvelle sur Radio Capi, des hippopotames de la rivière Lufira inquiètent ces jours-ci les pêcheurs de Malembankoulou dans la province du Olomami. Ces pachydermes ont même détruit leurs pirogues. L'administrateur du territoire plaide pour leur refoulement par l'ICCN. Radio Capi Lubumbashi, Jean Kanduka Bongo.
C'est depuis plus d'une semaine que ces hippopotames sèment la terreur. Ils sont localisés sur la rivière Lufira dans la chefferie de Kayumba, groupement Mondoué dans la localité de Kasenga. D'après l'administrateur du territoire de Malembankoulou, ces pachydermes se retrouvent au milieu de la rivière. Du coup, le trafic est coupé entre les villages Kasenga-Mondoué, de la chefferie de Kayumba dans le territoire de Malembankoulou, et les villages Kilumbe-Mouébé et Kafutu, situés dans le territoire de Bukama, plus précisément dans la chefferie de Butumba. Ces hippopotames empêchent aussi aux pêcheurs de s'adonner à leurs activités quotidiennes, car les habitants de ces villages vivent essentiellement de la pêche. D'ailleurs, plusieurs pirogues ont été endommagées par ces animaux. D'où ce cri de détresse de l'administrateur du territoire de Malembankoulou, Joël Kayembe.
Que l'ICCN, comme ils sont experts en cette matière, c'est eux qui gèrent les animaux et consorts. Si ils peuvent les repousser, la voie sera ouverte. Ce sont des animaux protégés. Le commerce fluvial est interrompu. Même les pêcheurs ne peuvent pas aller pêcher sur la rivière.
Notons que c'est dans cette rivière que l'on retrouve également le grand hippopotame appelé Pasteur par les habitants de Malembankoulou, qui les qualifie de redoutables. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Capi.
En sport, l'ancien entraîneur du Tout-Puissant Mazembe, vainqueur de la Ligue des Champions en 2009, est mort tôt ce vendredi matin à 62 ans. La nouvelle est confirmée par le Tout-Puissant Mazembe. Andy Magloire Mfutila était admis au clinique universitaire de Kinshasa depuis dimanche dernier. En RDC, il aura dirigé les meilleurs clubs du pays. Il est passé par Sangabalende, Bazano, Desempe et a entraîné même au Congo-Brazzaville en 2019 chez les Diables Noirs. Formateur, il avait dirigé les Léopards Espoirs en 2021. Il a même entraîné Saint-Éloi Loupopo qui l'avait amené au 8e des finales de la Coupe de la Confédération. Andy Magloire Mfutila a aussi offert ses services à l'APR au Rwanda, au DCMP et Vec Club. Le secrétaire de Sangabalende, club dans lequel le défunt est passé à deux reprises, dit garder de lui l'image d'un bon entraîneur. Il a été joint par Vanessa Kongolo.
Andy Mfutila Magloire, un bon entraîneur, purement au caractère sportif. D'abord, je présente à toute sa famille biologique nos condoléances les plus émues, à tous les sportifs et clubs qui ont eu à l'engager en qualité d'entraîneur, toute notre compassion. Mfutila, pour Sangabalende, il vous souviendra qu'il a fait deux fois. La première fois, c'était sous Ngoïka Sanji et la seconde sur Alexis Faki. Un organisateur du club, un entraîneur purement technique, mais aussi qui avait sa manière de gérer l'équipe et coacher. En tout cas, c'est pour nous une perte, une grande perte. Mfutila aimait bien rester dans les Kassai, surtout avec nous. Il était coopérant de tout le monde au sein du comité. Il n'avait pas de rancune. Il ne répondait pas aux provocations des supporters. D'ailleurs, c'est lui qui les encourageait de plus en plus à venir au stade et à soutenir leur équipe. Donc, c'est une perte aujourd'hui pour le football congolais et pour toutes les équipes qui pensaient aussi l'enregistrer comme entraîneur afin qu'il façonne leurs équipes. Donc, la perte est énorme. Comprenez, parfois nous manquons des mots.
Actualité internationale.
Un employé du Programme alimentaire mondial PAM de nationalité jordanienne a été tué lors d'une attaque criminelle barbare dans la province de Taïz au sud du Yémen. Annonce faite ce vendredi matin par le ministre de la Santé du gouvernement reconnu du pays en guerre. Mouayad Hamidi a appelé les forces de sécurité à arrêter au plus vite les criminels responsables de cette attaque. Et puis le procès de l'ancien président américain Donald Trump pour sa gestion négligente des documents confidentiels après son départ de la Maison Blanche débutera le 20 mai 2024. Annonce faite ce vendredi après-midi par la juge en charge du dossier. Ayen Cannon précise que ce procès aura lieu devant un tribunal fédéral en Floride.
L'invité.
Notre invité, c'est le directeur de la communication de la CENI, Jean-Baptiste Aitipo, explique pourquoi le délai du dépôt des candidatures pour les députés nationaux a été repoussé. Il s'entretient avec Jemima Mbouyoulou.
Monsieur Jean-Baptiste Aitipo, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi avez-vous prolongé le délai du dépôt de candidature?
La première des choses à retenir, la CENI n'organise pas le processus électoral pour elle-même. La CENI organise le processus électoral pour les différentes parties prenantes au processus et principalement pour les candidatures. C'est une étape importante du processus électoral qui exige la présence des compétiteurs sur terrain. Et dans le communiqué numéro 033 de la CENI rendu public le 15 juillet 2023, il a été mentionné clairement que dans certains bureaux de réception et traitement des candidatures, la CENI n'avait pas encore à la date du 15 juillet et enregistrer des dossiers de candidature qui soient déposés. C'est ainsi que l'Assemblée plénière de la CENI, sous la direction de son Excellence Denis Kadima, s'est réunie le 17 pour évaluer le processus de dépôt et réception et traitement des candidatures. Et à l'issue de cette évaluation, la CENI a jugé bon de proroger de 7 jours la période de dépôt et traitement du dossier de candidature.
Et est-ce que pouvez-vous nous faire un bilan à mi-parcours sur les dossiers de candidature déposés?
Bon, demander un bilan, c'est peut-être trop de choses à la fois, mais nous pouvons retenir qu'à dater du 17 juillet jusqu'à maintenant, on a constaté qu'il y a une évolution significative du nombre de dossiers de candidatures qui sont déposés au niveau des bureaux de réception et traitement des candidatures. Et donc la période de prorogation valait la peine, mais ils doivent profiter de cette période pour réellement déposer leurs dossiers de candidature parce qu'il n'y aura plus une autre prolongation.
Monsieur Jean-Baptiste, les candidats se sont plaints pour les conditions liées au dépôt de candidature. Quelles sont ces conditions et est-ce que vous avez allégé ces conditions?
Non, les conditions, d'une manière générale, ce sont les conditions d'éligibilité et quelques cas d'inéligibilité repris, n'est-ce pas, dans la loi électorale. Et en ce qui concerne l'élection des députés nationaux, les conditions d'éligibilité sont fixées, n'est-ce pas, je crois aux articles 120 et 121 de la loi électorale, je l'ai dit de mémoire, ce sont les mêmes conditions qui n'ont jamais changé depuis 2006 globalement, et même 2018, mais nous déplorons simplement le fait que les partis politiques, les règlements politiques et les candidats indépendants ne se soient pas prêtés vraiment à temps. Et alors que la CENI avait rendu public le calendrier depuis le 26 novembre 2022.
Nous aurons appris que l'expérience de 5 ans suffit. Alors, parmi les conditions, cela veut dire que vous ne tenez plus compte des diplômes universitaires?
La CENI ne fixe jamais les conditions. Les conditions sont reprises dans la loi. La loi électorale dit ceci, article 120, alinéa 5, avoir un diplôme d'études supérieures ou universitaires ou justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans les domaines politiques, administratifs ou socio-économiques. Les conditions sont fixées dans la loi.
D'accord, monsieur Jean-Baptiste. D'aucuns pensent qu'en ajoutant 7 jours, c'est tout le processus électoral qui est biaisé. Que répondez-vous à ces gens?
Dans un processus électoral, des dates contraignantes, mais il y a aussi des dates qui ne sont pas contraignantes. L'une des dates contraignantes, le scrutin pour l'élection du président de la République est convoqué par la Commission électorale nationale indépendante 90 jours avant l'expiration du mandat du président en exercice. Ça, c'est vraiment une contrainte. Et voilà pourquoi la CENI respecte ces délais constitutionnels, et donc ça ne biaise pas le processus, parce que même dans le communiqué de la CENI, le communiqué du 15 juillet, la CENI dit qu'elle respecte son calendrier. On a juste joué à l'intérieur pendant la période de dépôt des candidatures pour l'élection des députés nationaux.
Monsieur Jean-Baptiste Tipo, Radio Capi vous remercie.
Merci beaucoup, madame.
C'était donc l'invité de Radio Capi, le directeur de la communication de la CENI, Jean-Baptiste Aitipo, a été interviewé par Jemima Mbouyoulou et c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir écouté. Merci à Richard Junior Kamunga et Pelé Kipelamondo qui m'ont accompagné.